Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles qui donne la parole aux actrices et acteurs des transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région en partenariat avec Écoforum et l'Arbre des Imaginaires. Nous sommes le mercredi 20 septembre 2023 et sommes en direct de 19h à 20h. Et vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain, jeudi 21 septembre de 9h à 10h. En podcast sur radiogalère.fr dans la rubrique Écoforum ainsi que sur les plateformes Deezer et Spotify. Qu'est-ce que cette émission ? Nous le constatons tous les jours, notre société fait face à des défis majeurs. Le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la raréfaction des ressources et les inégalités sociales sont autant de menaces pour notre avenir commun. Ce constat nous pose des questions et nous invite à nous réinventer. Vous qui nous écoutez, vous devez sans doute vous demander ce que vous pouvez faire, à votre échelle, pour y répondre. Surtout quand ces questions paraissent loin de certaines des priorités que vous pouvez avoir et que vous pouvez considérer comme plus urgentes. Et quand bien même vous êtes déjà engagé, vous vous demandez probablement comment relier entre elles les initiatives qui existent déjà pour être à la hauteur. En somme, les questions que nous nous posons sont de savoir où nous allons et comment y aller toutes et tous ensemble. Pour y répondre, la Forêt des Possibles est une bouffée d'oxygène. Semaine après semaine, nos invités tissent une société où vivre dignement, aujourd'hui comme demain. Ils présentent des projets à la fois souhaitables pour les humains que nous sommes et soutenables pour le vivant qui nous entoure, c'est-à-dire des projets qui répondent à nos problématiques du quotidien sans dépasser les limites physiques de la planète. Surtout, la Forêt des Possibles est une invitation à ce que chacun et chacune d'entre nous prenne sa juste place dans cette société désirable, et ce, d'où que nous venions. Avec vous, chers auditeurs, auditrices et invités, nous questionnons les passages d'échelle de l'engagement, du moi au nous et du nous au tout.
À l'échelle individuelle, nos invités partagent la grande diversité de leur parcours et témoignent des questions qu'ils et elles se sont posées, ainsi que des besoins qu'ils ont enracinés. À l'échelle collective, les projets présentés sont autant de témoignages d'aspiration ayant donné du fruit pour répondre à des besoins spécifiques de la communauté qui nous entoure. Et enfin, à l'échelle de la société, ces personnes et initiatives ne sont pas seules. Mais encore faut-il se retrouver dans cette jungle de projets. On peut parfois s'y sentir un peu perdu, en concurrence ou insuffisamment coordonné pour que cela ait un réel impact. En mettant en lien et en cohérence les initiatives que nous recevons à la radio, la Forêt des Possibles enracine l'adaptation du territoire marseillais et trace les imaginaires d'une société désirable. Et oui, tout cela est possible. Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Germe.
L'association Germe, effectivement, avec Jérôme Mazas et Jean-Michel Petit. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous sommes pour faire cette émission, Gilliane, Mathieu, Chloé Landers et pour ma part, Marc Moffret.
Bonsoir.
Donc messieurs, bonsoir à vous et lors de cette introduction un petit peu fournie, le but est de présenter toute l'architecture de la Forêt des Possibles qui vise à tisser des liens entre les trajectoires individuelles, les dynamiques collectives et la façon de pouvoir refaire société. Et cette notion de tisser des liens et de pouvoir faire des écosystèmes, c'est des choses qui d'une certaine façon doivent faire écho symboliquement ou concrètement pour vous. Mais avant de présenter Germe et pour présenter un petit peu le fil qu'on va se donner, on va parler de vos parcours, des questions que vous êtes posées, des engagements et des choses qui vous tiennent à cœur. Puis ensuite, on va présenter l'association Germe, ce que vous faites, comment est-ce que ça s'implique concrètement à Marseille. Et puis après, on prendra un petit peu de respiration avant de prendre vraiment de la hauteur et de voir en quoi est-ce que les projets que vous menez participent à leur échelle à transformer cette société pour se donner la chance de continuer à vivre dignement demain. Jérôme, Jean-Michel, est-ce que l'un d'entre vous veut commencer pour se présenter ce soir ?
C'est moi ou c'est
ouais,
toi ?
Vas-y.
Donc Jérôme. Alors moi je suis paysagiste à la base, concepteur. Donc je travaille pas mal sur les questions de nature et de comment on inscrit tout ça dans la ville. Je suis militant écologiste depuis que j'ai 14 ans, première fois que j'ai adhéré dans une association. Puis après, j'ai un peu laissé tomber parce que j'ai fait d'autres choses. J'ai fait mes études et j'ai eu cette chance-là. Et donc, du coup, je me suis consacré plutôt à ça. Voilà. Et puis, depuis quelques années, j'ai fait du militantisme aussi sur le droit à la ville, la gentrification. mais également sur des collectifs citoyens un peu plus politiques et maintenant à germe, donc sur des actions de préparation à la transition écologique avec nos petits moyens.
Merci Jérôme. Jean-Michel, à ton tour.
Oui, alors moi, au départ, je suis un doctorant en physiologie végétale, c'est-à-dire que je m'occupais un peu de savoir comment marchaient les plantes, et puis je me suis un peu reconverti à l'écologie en travaillant notamment avec un naturaliste, Julien Barret, et j'ai mis mes connaissances au service un peu de la renaturation d'espaces pour maximiser la biodiversité. Donc ça pouvait être des espaces dégradés, mais aussi la gestion d'espaces naturels ou même en ville, toujours dans l'objectif de maximiser la biodiversité. Et on s'est aperçu que pour renaturer, c'était bien d'avoir des plantes locales. Et puis il y a eu un label qui s'est créé. Enfin bon, bref, je suis impliqué aussi dans la production de végétaux locaux avec Julien toujours. Et puis à la création de cette association Germe, eh ben, j'ai décidé de m'y impliquer, hein, puisque ça permet aussi de faire quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire la sensibilisation du public à ces enjeux écologiques, et notamment à l'écologie en ville et la biodiversité en ville. Voilà.
On entend donc dans les deux de vos parcours cette notion de paysage, nature en ville, engagement pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit présente ici à Marseille. Et maintenant, on va pouvoir présenter le projet Germe, et on aura Gilliane, qui est un des chroniqueurs de cette émission, qui a la chance de pouvoir vivre assez proche de là où vous intervenez avec Germe, et donc qui pourra avoir apporté son regard à la fois expert de territoire et puis peut-être plus poète de passeur. Mais avant ça, est-ce que vous voulez tous les deux nous présenter cette association ?
Ouais, du coup, l'association, donc, elle est née en janvier 2021. C'est une association assez jeune, mais on a déjà fait plein de trucs, donc ça c'est assez bien. On est très actifs. Donc il y a au niveau des gens qui ont créé cet asso, il y a Jean-Michel, Julien qui est écologue, Laure qui est ingénieur en eau, hydrologie, qui a travaillé au syndicat mixte de la gestion de la Durance, et puis moi-même. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui sont venus tout de suite adhérer avec nous, et elle ne nous appartient plus, elle appartient à ceux qui viennent, qui la font vivre, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette.
Et alors, qu'est-ce qu'on y fait dans cette association ?
Alors, l'association, elle a quatre axes de travail. Le premier, c'est administratif et recherche de subventions, etc. Donc ça, c'est un point quand même important, parce qu'il faut qu'on arrive à quand même faire vivre l'association. Elle a trois autres axes très importants. Le premier, c'est un axe scientifique, c'est-à-dire qu'on réalise des bilans écologiques et on fait des suivis qui permettent ensuite de déterminer si on arrive à comment en fait la biodiversité augmente ou diminue dans certains espaces. On vous expliquera après quels sont ces espaces et quelles sont les façons de faire en fait un peu que l'on met en place. Le deuxième axe, c'est un travail plus d'animation et de sensibilisation à l'environnement, à la nature, comment on peut faire évoluer la nature dans la ville, mais pas que. Et le troisième axe, c'est plus un axe projet aménagement, on va dire, qui permet de travailler avec des particuliers ou d'autres associations. Voire même ça peut être des sociétés qui ont besoin qu'on travaille sur la biodiversité avec eux.
Donc on entend trois axes, mais il y a aussi un territoire d'implantation.
Ouais, complètement. Territoire d'implantation pour l'instant Marseille, mais aussi métropole, puisqu'on a aussi des actions qu'on essaye de mener au-delà, par exemple à Salon de Provence. C'est pas encore, on va dire, certain, mais en tout cas, on développe tout ce travail-là à proximité. On a donc commencé à travailler en développant des liens avec les élus de la ville de Marseille et de voir comment on peut contribuer en fait à mieux gérer des espaces qui aujourd'hui sont laissés un peu à l'abandon, et cette gestion, est-ce qu'elle permet aussi de ramener de la biodiversité, mais aussi d'être économe et en gestion de l'eau et en intervention sur les différents sites. Peut-être du coup, Jean-Michel, tu peux aussi ajouter quelque chose, puisque c'est vrai que tu as pas mal œuvré sur la question de ces friches.
Alors oui, tout d'abord, on a oublié de dire qu'est-ce que vous voulez dire germe, parce que c'est gestion écologique et renaturation des milieux. Donc ça vous explique peut-être un peu mieux ce qui nous anime. Et puis, parmi les membres, les premiers membres, on a une douzaine d'un noyau actif pour l'instant, avec une quarantaine de sympathisants, mais on désire grandir. Parmi tous ces membres, donc chacun essaye de mettre un peu ses différentes compétences, parce qu'on a aussi des communicants, on a des sympathisants, enfin, et des scientifiques, des naturalistes. Donc on essaye de mettre en commun tous ces savoir-faire au service donc de la renaturation et de la biodiversité en ville. Et une de peut-être des originalités de Germe, c'est ce qui vous a un peu dit Jérôme, c'est que on fait notamment par exemple des inventaires, c'est-à-dire que on a dans l'idée de toujours de s'appuyer sur des arguments objectifs, donc notamment des arguments scientifiques. Donc par exemple, une de nos originalités, c'est que on va sur un territoire où on désire améliorer la biodiversité, on va commencer par faire un inventaire par nos naturalistes qui vont évaluer la biodiversité présente, et après on pourra l'évaluer à la suite de nos actions, histoire toujours de pouvoir donner par exemple à la mairie ou à gens qui font appel à nous des arguments objectifs qui vont pouvoir leur donner la direction à prendre ou qui vont permettre de justifier leurs actions auprès d'autres intervenants, hein, par exemple. Voilà. Donc, on essaye toujours de se baser sur des arguments le plus scientifiques possible pour justifier nos actions. Et donc là, pour l'instant, on a beaucoup travaillé sur des friches que la mairie nous a données en gestion. Donc, les friches, typiquement, pour l'instant, il y avait juste des actions de fauche qui étaient un peu réglementaires une fois par an. Et donc, Germe, nous, on s'est dit que ça valait le coup de valoriser ces friches du point de vue de la biodiversité, parce que ça forme pas mal d'îlots dans la ville qui peuvent être des réservoirs pour des espèces végétales, animales, des insectes et tout. Donc... je sais plus ce que je...
Non, mais peut-être ajouter aussi que ça va te revenir. Peut-être qu'il y a aussi les habitants, en fait. Voilà. C'est ça qui est intéressant.
Donc ces friches, il y a l'aspect biodiversité qu'on essaye de mettre en valeur et d'améliorer par nos actions. Et on propose des différents protocoles de gestion à la mairie ou qu'on réalise nous-mêmes avec d'autres associations, d'autres organismes. Et quelque chose qui est important et qu'on s'aperçoit quand on travaille sur ces friches, c'est à quel point les habitants sont attachés à ces petits îlots de verdure, quoi. Alors, toutes les friches ne sont pas ouvertes au public, mais en tous les cas, dans celles qui sont ouvertes au public, les riverains sont très attachés et très soucieux de l'avenir de ces îlots. Par exemple, ils sont contre... qu'elles soient construites, qu'elles disparaissent. Pour eux, c'est comme un petit jardin et c'est très important. Donc du coup, dans nos opérations de gestion de ces friches, on essaie de prendre en compte aussi l'usage des riverains et un peu leurs attentes et que eux aussi puissent profiter de cette amélioration des friches et de leur biodiversité.
Quoi. Et alors justement, mettons-nous à la place de celles et ceux qui nous écoutent ce soir. Peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait en connaissance de tout ce dont vous parlez. Et ils découvrent ce soir l'association Germe, le concept de friche, le concept de renaturation en ville, le concept de biodiversité qui va se développer ou qui au contraire va se paupériser. Ça peut être un peu abstrait d'entendre tout ça. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire, par exemple, une friche un peu symbolique sur laquelle vous travaillez, avec le regard d'un passant, en se disant bah, voilà, voilà cette friche, voilà ce qui se passe dans cette friche, voilà l'état de cette friche, et voilà ce que nous, l'association Germe, on y ferait concrètement, et toi, passant ou passante qui nous écoute, voilà ce qu'on va pouvoir faire ensemble.
Bah alors, par exemple, je peux vous parler de la Denise, qui est une des friches couvertes au public où il y a beaucoup de passages. Donc typiquement, quand on va à cette friche, bon, c'est sur un lieu de passage vers des jeux d'enfants. Donc en plus, il y a tous les âges qui passent, hein, des gens qui vont promener leurs chiens ou aux gens qui vont juste s'asseoir à l'ombre pour profiter d'un moment ou faire un casse-croûte à midi, aux enfants qui viennent courir un peu. Donc il y a vraiment toutes les catégories de la population qui se retrouvent à passer à cette friche. Donc jusqu'à présent, typiquement, le seul entretien qui était fait dans cette friche, c'était une fauche annuelle au milieu du printemps. Et donc nous, pour la valoriser, déjà, on va essayer de changer le mode de gestion. Donc si on fauche trop tôt, par exemple, on va comprendre qu'une plante, elle n'a pas le temps de compléter son cycle. Donc peut-être même, elle n'aura pas le temps de fleurir, donc d'attirer des pollinisateurs. Et puis, elle n'aura pas le temps de faire une graine donc pour se reproduire l'année suivante. Donc déjà, on va modifier les périodes de fauche pour qu'elles soient le plus favorables au développement des plantes et à la pérennisation de celles-ci. Mais aussi, du coup, ça serait, si on laissait tout en friche, donc à un moment donné au printemps, la végétation peut être trop, donc pour le public, c'est pas agréable. Donc du coup, nous, on va repérer les chemins qu'empruntent les gens ou les lieux où les gens vont s'asseoir pour profiter un peu de l'ombre des arbres, par exemple. Et donc, nous, on va établir des cheminements, on va définir des zones qui sont pour le public, qui sont donc les gens vont pouvoir en profiter. Et puis il y a des zones qui sont moins fréquentées. Et là, on va pouvoir laisser la nature un peu plus en libre expression, c'est-à-dire la laisser se développer un peu plus librement, ce qui va lui permettre d'héberger plus de biodiversité. Les plantes complètent leur cycle, donc il y a plus d'insectes. S'il y a des insectes, il y a ceux qui mangent les insectes, il y a les parasites des insectes. Enfin, vous voyez, tout de suite, ça fait une chaîne qui devient exponentielle. Et il se passe, sachant qu'il se passe la même chose sous le sol, hein, donc voilà. Et puis les plantes, si on les laisse se développer, elles vont pouvoir servir d'abri à des petits rongeurs. On peut penser aux hérissons, mais bon, il y a aussi tous les oiseaux qui vont pouvoir nicher si on ne taille pas les haies. Et par exemple, une des actions qu'on va faire aussi, c'est par exemple, au lieu de couper un arbre mort pour des raisons de sécurité, hein, qui peuvent sembler évidentes, c'est vrai qu'il peut risquer de tomber, nous, on va le mettre en défense, c'est-à-dire qu'on va établir un périmètre de sécurité, mais on va le laisser, parce que cet arbre mort, il va être un lieu d'habitat pour des oiseaux, des insectes qui vont pouvoir y nicher, et puis aussi, pour des choses dont on ne pense pas forcément, pour des micro-organismes comme les champignons, qui constituent une grosse part de la biodiversité, qui vont pouvoir dégrader l'arbre. Voilà, donc on essaie vraiment partout où on peut, dans cette friche, de laisser la nature compléter tous ses cycles. On va aussi pouvoir entretenir des murets de pierres sèches qui constituent des abris pour des petits reptiles, par exemple, ou d'autres animaux de la faune. Donc voilà, c'est des actions concrètes qui sont assez simples, hein, parce qu'on n'a pas les moyens financiers de faire des actions très coûteuses ou de paysager la friche. Ce n'est pas le but de la paysager ou de l'aménager. Donc, mais par des actions assez simples, on peut arriver à augmenter la biodiversité. Et il y a un autre aspect, peut-être qu'on parlera plus tard, auquel on est impliqué, c'est que dans ces friches, il peut aussi y avoir le développement de plantes qui sont dites exotiques et envahissantes. Et ces plantes, comme elles vont prendre la place de plantes qui naturellement seraient présentes dans ce milieu, dans cet écosystème, eh ben, elles vont réduire la biodiversité parce que non seulement elles prennent la place de ces plantes, mais elles vont aussi empêcher du coup les pollinisateurs qui sont spécifiques de ces plantes de venir, les parasites de ces pollinisateurs, ceux qui consomment ces pollinisateurs. Vous voyez, enfin, pour chaque plante, il y a tout un cortège de faune qui est associé. Et donc, si une plante envahissante, exotique, prend cette place, ben, il n'y aura plus du tout le même cortège. Donc, on va lutter aussi contre ces plantes envahissantes. Voilà quelques-unes des exactions qu'on peut faire dans une friche.
Oui, puis il y a une dimension importante, c'est la pédagogie, voilà. On va dire la sensibilisation des habitants. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ben, quand on va chez eux, entre guillemets, ils nous prennent pour des étrangers, ce qui est normal. Ils comprennent pas, tiens, c'est qui ces gens nouveaux qui viennent là. Et en fait, du coup, on essaie d'expliquer les choses. C'est-à-dire que déjà, il y a une présence humaine. Donc, du coup, on discute. On met aussi, on met des petits panneaux explicatifs avec des petits dessins, des choses comme ça qui expliquent en fait tous ces éléments-là. Et puis, on fait aussi à travers. Nos animations, par exemple, on fait le cortège de transition, on est allé à Herbel l'année dernière, en début d'année, pardon. Et puis là, on va aller
à la Denise
d'ici un mois. Samedi, il y a un cortège des transitions également dans un autre secteur de Marseille. J'ai oublié le nom de cet endroit, mais vous pouvez retrouver les informations sur le site de la ville de Marseille. Voilà, et dans plusieurs endroits, il y aura à la Viste, par exemple, le 17, je crois que c'est le 17 octobre, ou le 10 octobre. Voilà, il y a plusieurs dates possibles. Donc ça fait partie aussi de nos actions, c'est-à-dire d'essayer de parler de tout ça qui est un peu évanescent, et j'imagine que les auditeurs, peut-être n'imaginent pas complètement ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est le réel, c'est ce qui nous permet aussi, on entend beaucoup parler aussi dans les médias, d'avoir des fruits, parce que sans pollinisateurs, il n'y a pas de fruits. Donc en fait, tout ce travail sur lequel on essaie d'agir, en fait, c'est dans ce sens-là, c'est pour ne pas perdre toute cette richesse et cette nécessité à vivre, nous. Les humains.
On peut justement demander à Gilliane, toi qui viens de... Tu as grandi dans les quartiers est marseillais, pas loin de la Valentine, quel est le regard que tu portes sur les quartiers dans lesquels tu as grandi et puis peut-être sur ces friches et sur ce qui peut s'y passer?
C'est vrai que dans ces quartiers-là, il y a encore beaucoup de... qui formaient une partie de la ceinture maraîchère à l'époque. Il y a encore beaucoup d'endroits qui sont des friches qui ne sont pas utilisées, mais qui sont aussi de plus en plus bâties. Moi, j'ai vu beaucoup les quartiers dans lesquels j'ai grandi être lotis au fur et à mesure. Et je me souviens des campagnes de quand j'étais au collège contre la promotion immobilière à la Denise, qui est un lieu entre la Valentine et les Acates, près du collège Le Ruissatel. Et donc voilà, des endroits qui se lotissent de plus en plus parce que l'étalement urbain, parce que chacun veut avoir sa petite maison. Et en fait, je me posais la question, qu'est-ce qui fait que ces friches... j'entends que les friches sont différentes des parcs par la place qui est laissée à la biodiversité et à la gestion. Mais est-ce que l'idéal, ce serait pas de gérer tous les parcs de la ville qui sont d'énormes réserves potentielles de biodiversité, comme vous gérez, vous, les friches?
C'est l'objectif.
C'est l'objectif?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience qu'on va retirer de ces investigations, enfin de celles qu'on fait en collaboration avec la mairie, c'est ensuite de pouvoir en tirer le plus de choses positives pour que du coup les parcs soient gérés de cette manière-là en partie. C'est-à-dire qu'elles permettent quand même, évidemment, aux gens, aux habitants d'en profiter. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la biodiversité, elle n'aime pas trop les humains. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'endroits pour se cacher, genre des ronciers, vous voyez, les murs là, qu'on aime bien manger. Il faut surtout les laisser, il ne faut pas les abattre. En tout cas, il faut les réguler, mais toujours en laisser, parce que c'est un lieu où vont se cacher les hérissons, les petits mulots.
On peut manger les murs quand même.
Oui, on peut manger les murs. C'est ça qui est super.
Des excellentes pépinières de petits arbres aussi qui vont pousser, protéger. Et du coup, après,
tout à fait. Et donc, du coup, ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que reprendre tout ce travail qu'on est en train de faire là, dans les friches, c'est de le ramener au plus près des habitants, dans les parcs, mais aussi dans les rues. Parce qu'on peut arriver aussi à développer de la biodiversité dans les rues. À partir du moment où on a, même à la plaine, hein, je ne sais pas si vous voyez, place Jean Jaurès, par exemple, il y a quelques espaces qui sont assez, protégés, pas complètement, mais un peu. Alors c'est vrai qu'à Marseille, on a beaucoup de rats, mais ce n'est pas tellement à cause de la nature, ce n'est pas parce qu'on crée des espaces verts qu'il y a beaucoup de races et qui sont en fait protégées sous les trottoirs, bien à l'abri de la pluie. Et ils adorent ça. Donc en fait, plus on va désimperméabiliser aussi la ville, et peut-être moins on aura de rats. Et mais il faut savoir que les rats, il ne faut pas être contre non plus. C'est-à-dire que les rats nettoient en fait la ville. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'arriver à ce qu'on soit plus propre, nous les Marseillais, pour arriver à avoir le moins de détritus possible dans la ville. Et qu'il y ait du coup un peu moins de population de rats, mais il en faut un peu parce qu'il nettoie aussi, les égouts, les caves quand elles sont sales. Donc voilà, il faut qu'on travaille tous dans ce sens-là, quoi, je pense. C'est ça qui est important.
Si jamais on vous écoute, on pourrait résumer en disant qu'on préfère des murs à accueillir plutôt que des murs à bâtir.
Complètement.
Je voulais peut-être revenir un peu sur les friches. Oui, peut-être que j'ai pas les gens peut-être bien. Donc c'est vrai que ça va. Par rapport au parc, les friches, l'avantage, c'est que nous, on peut le considérer un peu comme un terrain d'expérimentation. Donc c'est pour ça, comme je vous disais, il y a nos naturalistes de l'association qui font un relevé de toutes les espèces, de la faune, de la flore, un état initial. Et nous, du coup, on va pouvoir évaluer si les méthodes de gestion qu'on propose, elles vont améliorer. Et par exemple, on n'en a pas parlé, mais par exemple, on travaille avec une autre association qui est un ancien stagiaire de Germe, qui est le mouton marseillais. Qui est créé par Arthur Aude. Et donc, ces moutons, on va les utiliser pour... on va les faire brouter sur certaines parties de la friche. Donc, ça évite de débroussailler de manière mécanique. Mais nous, ce qu'on essaye... On fait ça, on ne laisse pas juste venir sur la friche. Et puis, voilà. Donc, lui, il repère les endroits, le temps qu'il y a mis, la surface. Et donc, comme ça, on peut s'apercevoir qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps et à n'importe quelle période. Donc, on peut évaluer la meilleure période pour les amener. Donc, tout ça, après, c'est des résultats qu'on amasse et qu'on va pouvoir communiquer à des décideurs, par exemple. Et eux, ça leur fournit des arguments pour, eux aussi, défendre ces gestions-là. Parce que, du coup, on va essayer de leur donner des arguments pour qu'ils puissent changer les habitudes, par exemple, dans les parcs et jardins.
Ouais, et les habitants sont extrêmement friands de ça. C'est-à-dire que ceux qui sont proches des friches dont on s'occupe avec les moutons, ils les surveillent, parfois. Des fois, ils nous appellent parce qu'ils sont dans leur jardin. Parce que des fois, il y a des trous. Non, mais pas... Ça arrive. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a du coup un lien qui se crée. Et on a fait notamment une transhumance au mois d'octobre dernier, donc il y a presque un an. Et bon, là, il y avait plus de Marseillais que de moutons, en fait. Il y avait, je ne sais plus, 80 personnes qui ont fait la transhumance entre les Hauts-de-Douce. Voilà, ça crée du lien. Et c'était assez intéressant de pouvoir parler de ça. Et alors, 1er avril, on a fait une tonte à la Porte d'Aix, tonte des moutons, où il y a un vrai tondeur de moutons qui est venu, une personne aussi qui a récupéré la laine. Et c'était assez intéressant de voir comment ça a beaucoup attiré de familles qui viennent dans le parc de la Porte d'Aix ce jour-là, qui n'étaient pas au courant forcément. Et ça permet d'entrer en discussion aussi et d'expliquer pourquoi on fait ces choses-là.
Et vous avez des projets qui ont une ambition à la fois d'aménagement scientifique et de relations avec les habitants, les habitantes, qui sont très concrets, là, qu'on vient d'écouter. Et en même temps, ils ouvrent des perspectives sur une façon de refaire la ville et d'y vivre différemment. Et ce que je vous propose, c'est que comme on a un programme assez chargé en deuxième partie d'émission, on puisse faire la pause un poil plus tôt et que vous nous disiez ce que vous avez décidé de nous faire écouter pour notre respiration musicale en forêt des possibles. Je pense que le titre de ce qu'on va écouter juste après a un lien direct.
Alors Germe, nous, on essaie d'avoir un plaidoyer un peu joyeux. Bon là, la chanson, elle est un peu dystopique, mais bon, peut-être des fois, il faut se faire peur pour se donner des raisons d'agir et de ne pas attendre. Parce que, bon, une des choses qu'on apprend aussi en travaillant sur les friches, c'est que l'importance des collectifs de quartier, des gens qui se mettent en relation au sein d'un territoire, et puis ça leur donne une force pour agir. Et donc, voilà. Donc, la chanson,
c'est
Respire de Mickey 3D. Un petit peu dystopique, mais bon.
On se retrouve juste après la pause sur Radio Galère.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Dans l'émission de la forêt des possibles, et nous sommes avec Jean-Michel et Jérôme de l'association Germe. Donc nous avons d'abord présenté dans une première partie leur parcours et puis ce que faisait l'association Germe. Et maintenant, nous allons essayer d'élargir le thème et de parler de l'importance du collectif, d'élargir ces sujets-là. Donc Jean-Michel, juste avant la respiration musicale, tu parlais de projets que vous meniez avec d'autres collectifs et de l'importance de se donner cette force d'agir. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus tous les deux sur le collectif et sur les projets que vous menez actuellement?
Oui, alors du coup, c'est vrai qu'on a plusieurs projets en cours dans le thème de l'écologie, c'est tout ce qui est nature en ville et renaturation. On aimerait travailler en fait avec les habitants en centre-ville, mais pas seulement, aussi dans les différents quartiers en fait, sur... comment renaturer et comment en fait rendre plus fraîche la ville de manière un peu naturelle, on va dire. Comment faire que on soit moins dans la pollution, etc. Et en fait, ce qu'on a regardé nous à travers notre expérience, c'est qu'en fait les végétaux ont plusieurs qualités. Ils ont la qualité déjà de pouvoir capter le carbone, de pouvoir redonner de l'oxygène, mais ça tout le monde le sait. Mais d'autres dimensions, comme par exemple capter les pollutions, les microparticules de diesel par exemple, ça, elles se déposent sur les feuilles, après la première pluie ça repart, du coup ça évite de la respirer. Une dimension aussi de protection des façades, contrairement à ce qu'on croit, par exemple un lierre n'attaque pas la façade et ne l'abîme pas, c'est si l'enduit est mal fait que là effectivement il se tient en fait juste à la façade, donc si l'enduit est mal fait ça va faire partir la façade, mais c'est important de dire ça parce qu'en fait aujourd'hui ce matériel entre guillemets, cette nature, elle peut nous aider à isoler par exemple nos bâtiments. Une façade exposée plein sud sur laquelle on fait pousser un lierre, en fait vous allez gagner en fraîcheur, vous allez, ça va même protéger le bâtiment pendant l'hiver du froid, dans une certaine mesure évidemment, hein, pas complètement, mais ça aide en fait, parce que, et aussi parce que le... pardon, j'ai tapé le micro. Sur le micro. Voilà, donc en fait il y a toute une série de choses qui nous... à travers les expériences qu'on a dans les friches aussi également, c'est comment en fait on va travailler sur cette revégétalisation. Le deuxième travail...
Tu me permets
là-dessus,
là, tu as reparlé de la revégétalisation et de la nature en ville en disant comment et en donnant quelques exemples, mais c'est un terme qu'on emploie tout le temps et qui est devenu un peu à la mode, nature en ville, revégétalisation. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est ? Au-delà même de comment est-ce qu'on fait, c'est...
Oui, alors d'abord, effectivement, il y a beaucoup de rues dans Marseille où il y a des pots dans lesquels on met des végétaux et qui demandent beaucoup d'eau. Là, une plante, ça pousse dans le sol. Donc en fait, il faut faire un repérage des réseaux qu'il y a dans le sous-sol, dans la ville, ce qu'on appelle le technosol. C'est le désimperméabiliser, planter des plantes qui n'abîment pas les réseaux, comme le lierre, comme la vigne vierge, qui peuvent pousser sur des façades, c'est-à-dire qui ne prennent pas de place sur le trottoir ou sur la rue, parce qu'on... À Marseille, on a quand même beaucoup de rues étroites. Déjà, il n'y a pas de place pour les poussettes. Si en plus, on rajoute des arbres, ça peut générer des problématiques. Ou alors, il faut carrément virer les voitures. Et en fait, réimprégner aussi, laisser respirer les sols, ça permet aux végétaux de pousser. J'ai décrit déjà ce que ça peut faire sur les façades. Dans un sol, le sol contient 30%, un tiers, hein, de la biodiversité de la planète, y compris dans j'appelais les technosols, donc le sol de la ville. Si on pose du pavé, par exemple, qui est perméable, il permet en fait de capter du carbone, développer une biodiversité, le rendre vivant. Et si vous plantez en plus le long des façades ou même plein trottoir s'il y a de la place avec les arbres, et ben ça favorise en fait énormément les choses. Dans le sous-sol, en fait, il y a quelque chose de très important. C'est les champignons, ce qu'on appelle la mycorhize dans le jargon scientifique. Ça aide en fait toutes les plantes à travailler ensemble, comme les humains coopèrent ensemble. D'ailleurs, il faut développer cette coopération, c'est hyper important. Plus il y a de la coopération entre les êtres vivants, qu'ils soient végétaux, humains ou animaux, je me mettrais même dans les animaux, là on arrive à trouver un écosystème hyper intéressant, rafraîchissement naturel, vous n'avez pas besoin la nuit par exemple d'appuyer sur le bouton de la
climatisation,
merci, vous gagnez quasiment 4 à 7 degrés quand vous avez une rue qui est végétalisée. Il y a des études qui montrent par exemple, qui ont été faites très sérieuses, qui ont été faites sur le centre de Marseille, notamment Noailles. Alors j'ai plus tout à fait le chiffre en tête,
degrés,
etc., mais c'est 85 degrés au sol sur le bitume en 2030. C'est considérable. Ça veut dire qu'en fait, si on n'ombrage pas même les petites rues de Noailles ou donc rue d'Aubagne, etc., mais aussi ailleurs, hein, les rues, les boulevards qui remontent dans les quartiers sud, nord, est. À l'ouest, il y a la mer, donc ça va, on est au frais. On va sur un réchauffement global même de Marseille. Donc ça, c'est très important. Et un sol peureux rafraîchit aussi également. Il n'y a pas besoin que de l'ombrage. Dès qu'il respire, Donc l'eau va rentrer, va pénétrer dedans. Ça permet aussi de recharger les nappes, etc. Je suis peut-être un peu long, mais en fait, comme tout s'imbrique, c'est compliqué de dire juste un mot sur un truc et il faudrait plusieurs heures pour expliquer.
À ce propos, le goudron, en plus, surtout en période de canicule, il va agir comme un accumulateur. C'est-à-dire que pendant la nuit, il va pas avoir, non seulement il va restituer sa chaleur, mais il ne va pas avoir le temps de refroidir assez. Donc en plus, il va accumuler de la chaleur et ça va être une espèce de générateur de chaleur, le bitume, par rapport à un sol désimperméabilisé.
Ouais, donc planter, ça coûte pas très cher, moins cher que de mettre du minéral. Ça réduit les factures d'énergie, donc ça c'est hyper intéressant, y compris en hiver, je l'expliquais tout à l'heure sur les façades. Donc moi j'engage en fait les habitants en fait, à se constituer dans les copropriétés, demander à leur syndic de planter sur les façades, c'est hyper intéressant en fait. Et ça crée quand même aussi une atmosphère dans la ville extrêmement intéressante. Imaginez une rue jardin dans lequel quand même les voitures peuvent rouler, c'est possible, ça se fait ailleurs. Hein. Il y a la ville de Lyon qui a lancé des opérations là-dessus, la ville de Toulouse, Montpellier en train de s'y mettre. Faut pas qu'on soit à la ramasse à Marseille, quoi. Je crois qu'il faut y aller carrément.
Alors, je voulais peut-être apporter une précision aussi, parce que tu demandais un peu la biodiversité, qu'est-ce qu'on entendait peut-être exactement par biodiversité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est pas juste de on ne veut pas juste planter des plantes, en fait. Ce qu'on veut, c'est avoir des plantes qui sont fonctionnelles dans la région, à Marseille. En fait, on voudrait idéalement recréer un écosystème fonctionnel. C'est-à-dire qu'on veut des plantes qui soient du lieu et donc si elles sont du local, enfin, ou des espèces locales, on va dire, elles vont pouvoir accueillir, comme je disais tout à l'heure, tout un cortège d'espèces, d'insectes et d'animaux qui vont être associés à elles. Du coup, on ne veut pas juste planter des plantes différentes les unes des autres. Non, on veut planter des plantes qui sont adaptées à l'endroit et qui vont pouvoir fonctionner ensemble pour vraiment recréer une trame qui va permettre aux vivants de revenir dans la ville. Parce que c'est là qu'on peut faire intervenir aussi l'aspect trame verte et bleue, peut-être les gens qui en ont entendu parler. En fait, c'est juste qu'on aimerait idéalement pouvoir faire des corridors qui vont pouvoir communiquer avec la nature à l'extérieur de Marseille, hein, qui est bien entourée, Marseille. Et du coup, on voulait faire des espèces de couloirs de végétation. Donc, ça sera les trames vertes, mais c'est aussi sur les trames bleues. Donc, ça serait par exemple autour de l'Uvonne, hein, sur les ruisseaux, pour faire des passages où les espèces peuvent circuler et communiquer avec l'extérieur et se réenrichir grâce aux espèces de l'extérieur et tout. D'où l'important d'avoir des plantes qui ne sont pas juste des plantes différentes et qui viennent de n'importe où, mais des plantes qui sont adaptées au territoire et qui vont pouvoir bien fonctionner avec les plantes aux alentours et les insectes et la faune du coin.
Ouais, parce qu'on parlait de coopération tout à l'heure, et ça c'est hyper important, c'est-à-dire que des plantes locales, ça ne consomme pas d'eau. Ça travaille ensemble déjà depuis des centaines d'années. Il y en a même parfois des très belles, c'est-à-dire même les plantes sauvages, il y en a des magnifiques, sauf qu'elles ne sont pas dans les pépinières. Donc en fait, il faut les élever en pépinière, les développer, et c'est ce qu'est en train de faire d'ailleurs la ville de Marseille. Elle va réouvrir sa pépinière, probablement. J'espère que je ne dévoile pas les futurs projets, mais j'en ai entendu parler, donc c'est pas encore réalisé, mais en tout cas sur le végétal local dans ce but là et du coup aussi d'insérer dans ces parcs, dans la ville, ces plantes là pour gérer, pour qu'on ait plus d'eau à l'avenir et en tout cas que les plantes puissent pousser sans cette eau, sans l'eau.
Ça donne envie de rebondir sur plein de sujets ce que vous dites et ça rentre vraiment dans le cœur de la philosophie de la forêt des possibles qui essaye de mêler les écosystèmes les uns dans les autres. Alors, là, on est plus sur une métaphore par rapport à des écosystèmes humains. Donc nous, humains, avec notre écologie intérieure, comment est-ce qu'on va se mêler dans des écosystèmes collectifs et comment est-ce que ces écosystèmes collectifs vont transformer la société, mais en se projetant aussi dans une image du passage d'un arbre et de la forêt. Ça nous permet aussi de comprendre que nous, humains que nous sommes, nous formons des écosystèmes qui sont en interaction les uns avec les autres et qu'on est pleinement interdépendant avec les écosystèmes non humains, qu'ils soient végétaux, animaux ou avec les champignons, ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, mais hybrides. et que tout ça nous permet d'être vivants. Et tu disais aussi qu'il y avait des enjeux de coopération, et alors ça nous permet de faire un peu le lien entre les émissions que l'on mène sur des sujets qui sont assez proches. On a reçu ici Mycotopia au début de cette année, qui parle de cette question des champignons, et qui produit des champignons à des échelles toutes petites, mais qui a une vraie réflexion sur l'utilisation des champignons pour faire des matériaux, et aussi pour proposer des villes-forêts avec des maillages de racines, de mycélium, etc. Donc on a pu aborder cette question-là, et ça fait un lien avec ce que tu dis. Et on va aussi faire une petite aparté sur le récif et Natural Solutions, qui a aussi cet enjeu de biodiversité, de essayer de rapporter la ville, enfin la nature en ville. Et donc on aime faire ces liens entre projets ici, parce que ça fait des échos, et ça montre que ça se tisse à la fois là, vous, les végétaux qui se tissent et qui réintroduisent la nature.
Ouais, c'est très important. C'est très important parce qu'on nous bassine un peu avec le changement climatique, mais il est réel. On voit bien que on a besoin de faire attention en fait à cette coopération pour justement trouver qu'avec la nature, tout ce qu'elle peut nous amener comme chose positive, on l'a bien vu au moment du Covid, hein, on était enfermés, on avait envie de retrouver la nature. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie aussi d'aller se retrouver dans les calanques. Il y a pas mal de gens qui viennent sur Marseille, qui viennent du nord. On nous dit qu'il y a trop de gens qui viennent du sud, mais moi je pense qu'il y a... Non, je blague. C'est hyper important en fait d'être accueillant, que tout le monde trouve sa place et qu'on soit vraiment dans cette idée de coopération. D'ailleurs, on a pas mal développé de coopération aussi avec d'autres associations du secteur. On essaye aussi d'aller dans différents quartiers quand on peut et qu'il y a des choses qui sont organisées dans ce sens-là. On travaille avec des gens à l'Estac sur l'espace Miramar, qui est un lieu un peu de lutte, parce que c'est un très bel endroit en fait, avec des plantes et des gens qui habitent autour et qui ont profité de ça pendant des années et qui n'ont pas envie de le voir disparaître. Donc c'est bien de s'attacher à ça, mais il faut que, du coup, essayer d'emmener tout le monde, y compris les entrepreneurs, dans ce dispositif-là. On voit ce qui s'est passé sur Foresta, par exemple, où depuis quelques semaines, c'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire, on a fait un bilan écologique sur ce site. Il y a des plantes protégées. Et là, actuellement, il y a des tonnes et des tonnes de terre qui sont stockées à cet endroit-là et qui peut-être même recouvrent déjà les plantes protégées. Donc, il y a une nécessité en fait à faire très attention. Il y a des zones même protégées. Il y a des trafics. On a regardé un peu trafic sur le pas le Rossignol, un truc rouge là. Je me rappelle plus. Bon, bref. Et il y a des gens qui les piègent, que ça se vend très cher au marché noir. Et c'est une espèce qui est protégée, donc il faut y faire très attention. Évidemment, je pense qu'il faut d'abord solutionner la question de la pauvreté pour que tout le monde ait à manger, pour qu'on aille dans le même sens ensemble et que l'écologie soit pas, comme on dit, punitive, quoi, qu'elle nous donne envie de travailler ensemble. Et je pense que dans chaque quartier, en fait, on arriverait assez facilement. Avec même, on voit avec les jardins partagés, etc. Ça marche super bien en fait. Ça nous permet de tous parler entre nous, avec les autres.
Tu as dit qu'il fallait embarquer tout le monde. Et on s'était dit, quand on a préparé cette émission, qu'on allait se donner trois thèmes dans cette deuxième partie autour de la nature en ville, la régénération des sols et l'adaptation au climat et au changement climatique. Et vous avez tous les deux abordé en fait déjà un certain nombre de réponses à ces questions-là. Mais pour embarquer, il faut aussi proposer un récit, un imaginaire. Ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes. Vous pouvez donner un peu chacun votre vision de Marseille en 2035, qui est parvenue à devenir une cité-forêt, une cité-jardin. Donc une ville hybridée, une ville sauvage, comme le dit Baptiste Anaspèze, une ville avec des furtifs où tous les îlots se seraient réunis, si on prend plus l'imaginaire de Damasio. Allons-y. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait que les entrepreneurs vous suivent. Là, vous avez carte blanche, il vous reste 7 minutes, donc on va dire 3 minutes chacun. C'est quoi cette ville-là ?
Il n'y a pas que les entrepreneurs aussi. Nous, si on prend un peu de hauteur au sens propre, on s'aperçoit qu'il y a plein à Marseille, il y a plein de petits jardins. Donc, il y a des gens qui ont la chance d'avoir un petit jardin. Donc, aussi, on voudrait aussi qu'ils s'impliquent, parce que la somme de tous ces petits jardins, plus... Évidemment, les grands espaces dont on a parlé, Donc ça serait ça aussi pour moi, ça serait Marseille, ça serait où tout le monde est partie prenante, pas seulement les acteurs institutionnels ou les gros propriétaires, mais aussi tous les particuliers qui arrivent à se réapproprier cette notion de nature et de biodiversité. Et voilà, parce que la somme de toutes les petites actions va produire un résultat qui sera vraiment tangible pour le coup, quoi. Et du coup, on pourrait arriver à une ville qui soit beaucoup plus agréable à vivre, parce que c'est ça le but, hein. On parle d'un avenir où peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse à notre mobilité et il y a aussi des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'il faut loger plus de monde, mais en même temps, il ne faut plus artificialiser les sols. Donc, c'est des injonctions contradictoires qu'il va falloir qu'on trouve des moyens de résoudre et d'une manière qui soit vivable et agréable pour tout le monde. Donc moi, je crois beaucoup à cet aspect de nature. Si on arrive à la réintroduire dans la ville, peut-être que ça sera plus... Enfin, sûrement, ça sera plus agréable aux gens, parce qu'on l'a vu pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont voulu retourner à la campagne, mais ce n'est pas vraiment forcément possible pour tout le monde, et ça pose d'autres problèmes de mobilité, etc. etc. Donc voilà.
Donc c'est à moi.
Ouais, Jérôme.
En fait, moi, c'est vrai que également, j'ai une ville rêvée. Bon, déjà, pour moi, c'est Marseille, ma ville rêvée. Et j'aimerais, en fait, par exemple, quand je sors dans la rue, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit fraîche, qu'elle soit un peu à l'ombre, qu'il y ait des lianes un peu partout, puisque c'est mon métier. Je sais que c'est possible de le faire. Bien que les injonctions politiques, par exemple, de la métropole, disant qu'on ne peut pas planter parce que les racines rentrent dans les caves, etc., ce n'est pas vrai, en fait. Y a des choses qui peuvent être faites. Il faut aller vite, il faut le faire. Il faut le faire ensemble. Il faut le faire avec son voisin, sa voisine. Là, actuellement, je suis en train de monter un petit projet, justement, dans le cadre de ma petite copropriété, dans Marseille, où on va essayer justement de faire pousser des grimpantes le long du mur, parce qu'il n'y a pas trop de place ailleurs, en fait. Mais déjà, ça, c'est pas mal. Et ensuite, on va demander une autorisation pour désimperméabiliser notre bout de trottoir qui est devant chez nous sur 10 mètres. Voilà, moi j'ai envie de faire ça, et j'aimerais que de donner envie aussi à tout le monde d'arriver à le faire. Mais c'est vrai que du coup, il faut le faire un peu le dimanche, un peu le samedi, c'est un peu aux heures perdues, il faut avoir le temps de le faire, et donc il faut trouver les gens motivés pour le faire. Et j'ai envie d'aider à travers l'association, et puis moi perso, aider les gens à le faire, parce que techniquement je sais le faire, et je peux mettre ça à disposition, et je pense que l'association, elle peut être là aussi pour aider les gens à faire tout ça.
Juliane, toi qui es propriétaire et qui a des questions en ce moment par rapport à l'état de l'immeuble dans lequel tu vis, ça serait une très bonne question, est-ce que tu penses que tu te dirais « Ah bah oui, bien sûr que c'est ça qu'il faut pour mon immeuble », et si c'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir des freins à l'entrée, puisque si on a envie qu'on vive dans une grande ville jardin, une grande ville forêt, l'enjeu, ça serait que tout le monde le fasse.
Alors, moi, je suis exposé plein ouest, donc je ne dirais pas non à avoir des plantes qui résistent et qui me fassent de la fraîcheur, autrement que par des ombrages artificiels. Et qu'est-ce qui pourrait être des freins? En fait, moi, je suis au troisième étage, et dans ma copropriété, il y a un superbe néflier qui pousse. Et j'arrive pas à accueillir les nefs, elles sont un petit peu loin, mais en tout cas beaucoup de voisins se plaignent de nuisibles qui peuvent vivre dans le néflier, donc des pucerons, des coccinelles. Donc il y a quand même beaucoup de changements à apporter dans la manière qu'ont les gens de concevoir la nature. Et donc moi, je signerais tout à fait pour qu'on puisse installer des grimpantes chez moi, et je lancerais même, si c'était possible, des chantiers collectifs où on s'organiserait copropriété par copropriété pour avancer plus vite, parce que c'est peut-être là l'enjeu aussi de transmettre et de donner un élan de joie dans le fait de transformer le monde pour qu'il soit un peu plus agréable à vivre dans les années à venir.
Ouais, il ne faut pas hésiter à se regrouper, parce que en fait, même les décideurs, eux, ils sont demandeurs, ils ont besoin que les gens se regroupent et exercent une sorte de pression, je ne parle pas de pression négative, mais qu'ils aient un poids, et du coup, eux, ça leur sert aussi pour mettre en place des changements. Donc, c'est quand on fait des animations un peu de sensibilisation, Les gens ils demandent souvent qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, bon, si ils ont la chance d'avoir un petit jardin, bah, ils peuvent faire attention à ce qu'ils y mettent dedans, à mettre des petits nichoirs, à établir des passages avec les autres jardins et tout ça. Mais des fois, bon, si on n'a pas de jardin aussi, voilà, se regrouper et avoir des demandes concrètes et ou des actions concrètes. Et souvent, elles seront très bien accueillies, en fait.
Mmh. Ouais, et puis il faut être créatif, il faut qu'on arrive à... Et on est créatif ensemble, en fait, à chaque fois. Je trouve que c'est ça qui est important. C'est vraiment de...
La force du collectif.
Ouais, je pense très, très, très fortement ça, ouais.
Et nous, c'est ce qu'on a envie de montrer aussi dans cette émission. C'est qu'à chaque fois, il y a plein de petits verrous qui peuvent nous empêcher de passer à l'action. Ça peut être au niveau individuel, le fait qu'on ne soit pas conscient de quelque chose ou qu'on ait l'impression qu'il y a une priorité avant, payer un loyer, s'occuper des enfants, se dire que si jamais on va faire une ville avec... Enfin, si on va mettre plein de lierre sur mon mur, peut-être que ça va me demander dans 5 ans d'avoir à tout reconstruire parce que mon mur aura été attaqué. Alors qu'à chaque fois, il y a plein de petits déverrouillages à faire. Puis les déverrouillages, ils peuvent se monter comme ça en disant « Bon, une fois qu'on a déverrouillé individuellement, il y a le verrou collectif. Et si le verrou collectif, il est bloqué, il y aura encore celui du système. » Et en même temps, tout ça, c'est aussi un système vivant un peu organique. C'est-à-dire que si on transforme à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tous les verrous, on peut aussi... avoir une métamorphose pour tout d'un coup arriver dans quelque chose qui soit une osmose, une harmonie. Et ce tissage-là, c'est celui qu'on essaie de vous transmettre par ces émissions. Et aujourd'hui, c'était beau parce que c'était un vrai élan de fraîcheur. On a respiré, mais pas dans un univers qui est dystopique, catastrophique comme celui qu'on a écouté lors de la pause, mais plus dans un univers qui nous montre que tout ça, c'est possible. En tout cas, c'est ce que j'en retiens. Donc merci à vous, messieurs.
Merci.
Merci de nous avoir invités.
Donc merci pour resituer cette émission, Jean-Michel et Jérôme, de nous avoir présenté l'association Germe dans le cadre de la Forêt des Possibles. Merci Gillian, merci Chloé qui était en régie avec nous ce soir et en studio pour nous trois. Oui.
Juste pour rajouter, si les gens veulent être au courant de nos actions, notamment la prochaine action, on n'a pas encore fixé la date qui sera à Denise, n'hésitez pas, on a un Facebook, hein, donc c'est Germe, G-E-R-M, avec un apostrophe. Mais...
Asso.germe.
Asso.germe, voilà.
Sur Facebook, voilà. On n'a que ça pour l'instant.
Association Germe sur Google, vous allez trouver. Hein, voilà.
Si vous avez une friche que vous avez envie de faire renaître, eh bien vous savez quel est votre interlocuteur.
Merci beaucoup.
Très bonne soirée. Et à la semaine prochaine sur Radio Galère au 88.4.